Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1935, Marie Stuart de Stefan Zweig est une biographie historique écrite avec l'intensité d'un roman tragique. L'auteur suit le destin de Marie Stuart, reine d'Écosse dès l'enfance, reine de France par son mariage avec François II, puis protagoniste d'une crise politique, dynastique et religieuse qui traverse l'Europe du XVIe siècle. De son retour en Écosse après son veuvage à son exécution en Angleterre en 1587. Zweig ne se contente pas d'aligner les faits, il cherche à comprendre les élans, les erreurs et les contradictions d'une souveraine devenue objet de légendes opposées. Le livre met notamment en regard Marie et Elizabeth Eyre, cousines et rivales, dont l'affrontement indirect engage la légitimité du pouvoir anglais. S'appuyant sur une vaste matière documentaire, Zweig revendique une part d'interprétation littéraire. Son objectif est donc moins de produire une étude académique exhaustive que de rendre intelligible, dans sa tension humaine et politique, une destinée historique exceptionnellement disputée. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une tragédie politique façonnée par l'incertitude dynastique. Zweig présente la vie de Marie Stuart comme une tragédie au sens fort, les qualités qui lui donnent éclat et pouvoir contribuer aussi à l'exposer au danger. Son statut dynastique est au cœur de cette mécanique. Reine d'Écosse, elle possède également une prétention au trône d'Angleterre aux yeux de nombreux catholiques, ce qui fait d'elle une menace durable pour Elizabeth Eyre, souveraine protestante. Sa personne ne peut donc jamais être strictement privée, un mariage, une fuite, une rumeur ou une déclaration deviennent immédiatement des enjeux d'État. Le récit montre ainsi que la souveraineté féminine, dans une Europe marquée par les conflits confessionnels et les alliances instables, se trouve soumise à une surveillance extrême. Marie est certes responsable de choix imprudents, mais Zweig insiste sur l'étau historique qui réduit sa marge de manœuvre. Chaque camp peut mobiliser son nom, les catholiques y voient une figure de légitimité, ses adversaires écossais un risque pour la réforme. Les autorités anglaises un foyer possible de complot. Cette perspective évite de réduire son effondrement à sa seule psychologie. La chute de Marie résulte de l'interaction entre ses passions, les calculs de ses proches et une structure européenne où le sang royal constitue à la fois une source d'autorité et un péril permanent. Deuxièmement, Marie Stuart et Elizabeth Eyre, deux conceptions rivales de l'exercice du pouvoir. La rivalité entre Marie Stuart et Elizabeth Eyre organise l'horizon politique du livre. Même lorsque les deux reines ne se rencontrent jamais, Zweig les construit comme des tempéraments et des styles de gouvernement opposés. Marie apparaît volontiers guidée par l'élan, le prestige personnel et le désir d'agir immédiatement. Elizabeth, plus retenue, fait du délai, de l'ambiguïté et du calcul des instruments de survie politique. Cette opposition ne se limite pas à un contraste psychologique. Elle éclaire deux rapports à la fonction royale. Marie tente à confondre par moments sa volonté intime et l'intérêt de la couronne, notamment dans ses alliances matrimoniales. Elizabeth, elle, maîtrise mieux la séparation entre ses émotions, son image publique et les nécessités de l'État. Zweig ne transforme pourtant pas la reine d'Angleterre en simple antagoniste impassible. Son hésitation prolongée devant l'exécution de Marie révèle le coût politique et symbolique d'une telle décision. Faire mourir une reine crée un précédent inquiétant pour toutes les monarchies. Le livre montre donc que l'avantage d'Elizabeth ne tient pas seulement à une plus grande puissance matérielle, mais à une discipline politique supérieure. Face à une adversaire devenue prisonnière, elle sait attendre, déléguer le risque et préserver sa propre position. Cette lecture donne à leur conflit une portée durable, le pouvoir dépend autant de la maîtrise de soi et du temps que de la légitimité héréditaire. Troisièmement, les mariages de Marie et l'impossible séparation entre passion et raison d'État. Les unions de Marie Stuart constituent chez Zweig des décisions politiques dont les conséquences sont amplifiées par les affects. Son premier mariage avec François II l'inscrit dans l'orbite prestigieuse de la monarchie française. Après son veuvage, son retour en Écosse la confronte à un royaume profondément divisé. Le mariage avec Lord Darnley, puis l'association avec le comte de Bothwell après la mort violente de Darnley, accélèrent la perte de confiance autour d'elle. Zweig traite ces épisodes non comme de simples scandales romanesques, mais comme des moments où les exigences de la royauté et les impulsions personnelles cessent de coïncider. Une souveraine ne choisit pas un époux dans l'espace privé, elle choisit aussi des alliés, des héritiers possibles et un équilibre entre factions. En s'attachant à des hommes contestés ou instables, Marie donne à ses ennemis des arguments pour contester son jugement et son autorité. L'accusation d'implication dans le meurtre de Darnley ainsi que la rapidité de son mariage avec Bothwell endommage irréversiblement son crédit politique, quelle que soit la part exacte de sa responsabilité dans les faits. L'intérêt de l'analyse de Zweig est de montrer qu'une réputation souveraine ne repose pas uniquement sur la vérité judiciaire. Dans une société de cour, elle dépend aussi des apparences, des alliances visibles et de la capacité à éviter que l'intime ne devienne une arme offerte aux adversaires. Quatrièmement, réforme écossaise et conflit confessionnel, un cadre qui dépasse la personne de la reine. Le livre situe Mary Stuart dans une Écosse où l'autorité monarchique est fragilisée par la réforme et par l'influence des nobles. Catholique dans un pays où le protestantisme calviniste s'affirme. Elle ne gouverne pas seulement une population divisée, elle devient le symbole vivant d'un conflit religieux plus large. Zweig accorde une place importante à John Knox, prédicateur et figure majeure de la réforme écossaise, qu'il décrit de manière très sévère comme un adversaire intransigeant de la reine. Ce portrait reflète le goût de l'auteur pour les antagonismes de caractère et doit être lu comme une interprétation littéraire, non comme un jugement historique neutre sur Knox. Il reste cependant utile pour comprendre la pression qui pèse sur Mary. Sa foi, sa cour et ses liens français nourrissent la méfiance d'une partie des élites écossaises, tandis que toute concession risque de la couper de ses soutiens catholiques. Zweig met ainsi en évidence un problème structurel dans un royaume où l'appartenance confessionnelle est inséparable des fidélités politiques. Le compromis paraît souvent suspect aux deux camps. Mary ne peut pas résoudre cette crise par la seule séduction personnelle ou par le prestige de son rang. L'analyse rappelle que les décisions religieuses du XVIe siècle ne relèvent pas d'une conviction individuelle isolée. Elles déterminent l'accès aux alliances, la loyauté des sujets et la stabilité même du trône. En dernier lieu, une biographie romancée où l'interprétation psychologique complète les archives, la singularité de Mary Stuart tient à la méthode narrative de Zweig. Il utilise chroniques, correspondances, actes et témoignages, mais refuse de laisser l'abondance documentaire produire une simple compilation. Les zones d'ombre de l'histoire deviennent pour lui un espace d'interprétation psychologique, il reconstitue des motifs, des hésitations et des conflits intérieurs afin de donner une cohérence dramatique aux événements. Cette démarche explique la force de lecture du livre. Les enjeux diplomatiques, les rivalités de cour et les procédures judiciaires y acquièrent une tension presque romanesque sans que le cadre historique disparaisse. Elle exige aussi une lecture critique. Lorsque les sources sont contradictoires ou incomplètes, l'analyse de Zweig peut prendre la forme d'une hypothèse persuasive plutôt que d'une certitude démontrée. Ses jugements sur Mary, Elizabeth ou Knox portent la marque de sa sensibilité humaniste et de son intérêt pour les personnalités divisées. Le lecteur ne doit donc pas confondre sa reconstruction avec un consensus historiographique contemporain. Mais cette limite est également la raison de l'importance durable de l'ouvrage Zweig, expose implicitement le travail de mise en récit qui accompagne toute histoire. Il ne cherche pas seulement à décider si Mary fut coupable, victime ou héroïne. Il rend perceptible la coexistence troublante de ces images dans la mémoire européenne. En conclusion, Mary Stuart s'adresse d'abord au lecteur attiré par les biographies historiques qui privilégient la compréhension des êtres et la dynamique des conflits plutôt que l'érudition universitaire exhaustive. Il conviendra aussi à ceux qui souhaitent découvrir l'Écosse, l'Angleterre et la France du XVIe siècle à travers une figure centrale des rivalités dynastiques et confessionnelles. Son bénéfice intellectuel principal est de faire percevoir comment une décision personnelle peut, chez une souveraine, devenir un fait international les mariages. Les réputations et les convictions religieuses ont ici des conséquences directes sur la guerre, la légitimité et la survie d'un régime. Par rapport à une biographie académique, le livre offre moins d'appareils critiques et davantage de continuité dramatique. Par rapport à un roman historique, il conserve toutefois l'ambition de suivre les faits établis et de prendre au sérieux les contraintes documentaires. C'est dans cet entre-deux que l'ouvrage se distingue. Zweig transforme une matière historique complexe en étude de caractère, tout en maintenant visibles les forces collectives qui limitent l'action individuelle. Sa Mary n'est ni une martyre sans défaut, ni une coupable univoque. Elle demeure une souveraine vulnérable, brillante et parfois imprudente, prise dans un système qui exploite ses faiblesses. Cette ambiguïté, associée à la netteté du style et à l'attention portée au duel avec Elizabeth Eyre, fait de l'ouvrage une porte d'entrée littéraire particulièrement marquante vers l'histoire de Mary Stuart. Il gagne à être lu avec curiosité et esprit critique, puis, si besoin, complété par des études historiques récentes. Si vous souhaitez soutenir Stefan Zweig, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.